poursuivie. Plus d'infos sur voaafrique.com.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour votre émission interactive sur ces sujets qui font ou défont l'actualité en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Vous êtes sur VOA Afrique, nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Ce soir, nous parlons santé, précisément l'état des infrastructures sanitaires en Afrique. La tendance ces dernières années est que beaucoup de leaders africains, lorsqu'ils ont des problèmes de santé, préfèrent aller se faire soigner à l'étranger. La France, la Grande-Bretagne, l'Espagne ou les États-Unis sont des pays de prédilection des présidents africains, des ministres et autres assimilés. Dans le même temps, le citoyen lambda n'a pour choix que les hôpitaux locaux pour les plus nantis ou le dispensaire du coin pour les plus pauvres. Alors question, pourquoi les présidents africains choisissent-ils de se faire soigner à l'étranger plutôt qu'en Afrique? Vous pouvez intervenir à cette émission en appelant en direct le 001-202-619-3140 ou en nous écrivant sur Facebook. John Lyndon à la présentation, Georges Léonard Sagnoua sur la production de cette émission, mise en onde de Wagner Robert. Tout de suite, nous allons du côté de Paris pour retrouver un de nos invités, Jemal Taleb, avocat d'affaires. Jemal, bonsoir.
Bonsoir, John.
Alors, merci. On sait ton agenda très chargé. Déjà, de prime abord, qu'est-ce que vous pensez de ces présidents-là qui viennent se faire soigner à l'étranger, notamment en France, où vous êtes?
Alors, je pense forcément deux choses. La première, c'est qu'ils viennent se soigner parce qu'ils ont besoin d'être soignés. Et donc, ils ont besoin tout naturellement de ne pas être tellement malades longtemps. Et pour cela, ils choisissent les milieux et les endroits les plus adéquats pour se faire soigner. La deuxième chose, naturellement, et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre lancement, c'est qu'ils se soignent ailleurs parce que chez eux, ils ne sont pas capables de bien se soigner. Et c'est toute la tristesse. La tristesse, c'est que sur le continent africain, nous l'avons... Quand j'ai dit le continent africain, pardon encore une fois de généraliser, il y a 54 pays, donc il n'y a pas de 54 situations semblables. Mais enfin, il y a quand même des similitudes de part et d'autre. Et donc, dans la quasi-totalité des pays africains, les investissements nécessaires en matière de couverture sanitaire ne sont pas faits. Et donc, nous n'avons pas compris encore qu'il y a deux postes nécessaires sur lesquels nous devons, bien entendu, investir, l'éducation et la santé. Et donc, la santé qui est notre sujet aujourd'hui est naturellement le sujet primordial, mais vous êtes toujours stupéfait. Regardez la Libye de Kadhafi, c'est quand même extraordinaire. Voilà un pays qui vit aujourd'hui une situation totalement meurtri, mais qui ne peut pas nous faire oublier le passé. Sous Kadhafi, le pays tirait plus de 60 milliards de dollars d'investissement de revenus pétroliers. La Tunisie, à côté, vit avec 5 milliards. Les Libyens malades se soignent en Tunisie. Moralité de l'affaire, c'est que les Tunisiens, avec peu de moyens, réalisent beaucoup de choses. Les Libyens, avec trop de moyens, ne réalisent pas grand-chose. Regardez le Nigeria qui a été votre sujet. Le président Buhari, pour lequel, naturellement, nous avons tous forcément beaucoup de respect. Il a donné de l'autorité à son pays, il lui a donné de l'espoir, il est en train de rétablir une situation plutôt chaotique. Et pourtant, on ne peut pas lui faire porter une responsabilité maintenant, mais on est obligé de faire porter une responsabilité collective. Malade, d'inotite, voyez-vous, tous les enfants sont malades d'inotite. On n'est même pas capable de la soigner chez lui. En tout cas, il n'a pas envie de la soigner chez lui, il va la soigner à Londres. C'est tout le problème. Regardez l'Algérie qui tire des milliards et des milliards. Le président Bouteflika malade, il se soigne où? Il se soigne au Val-de-Grâce, il se soigne à Genève. Mais la situation, on peut la multiplier sur tout le continent africain.
Alors,
c'est
vous restez...
un problème de confiance en soi, et ce problème de confiance en soi doit nécessiter naturellement des prises de décisions politiques importantes qui peuvent s'échelonner sur les 10 prochaines années. Je dirais un mot et j'en aurai fini. Nous avons une culture, généralement dans tous les pays, du tout-État. Et la culture du tout-État chez nous fait que nous voulons tout faire sur le dos de l'État. Si nous comprenions un tout petit peu que les partenariats publics et privés permettent aussi de développer la couverture sanitaire, permettent aussi de construire des cliniques de bon niveau, et qui permettent également aux pays de ne pas aller se soigner ailleurs, de ne pas se saigner de ces devises pour aller les mettre dans des cliniques extérieures, et pardon, juste de soigner des gens malades.
Alors, Jemal, vous restez avec nous. Je vais prendre... Abdelaziz Moundé, vous avez écrit un article sur votre page Facebook parlant justement de cette question et vous preniez le cas du président nigérien Muhammadu Buhari. Alors, on vous écoute. Quel est votre sentiment? Quelle réaction faites-vous lorsque vous voyez ces présidents-là venir se soigner à l'étranger, en France, à Londres, ici même aux États-Unis?
Alors, bonsoir à tous, bonsoir à tout le panel. Je fais mienne toutes les observations qui viennent d'être faites tout à l'heure par notre ami avocat parisien. Et il a des faits d'observations qui sont structurelles et qui peuvent s'appliquer à l'ensemble du continent et qui jettent une lumière crue sur le fait que toutes les stratégies d'émergence du continent africain reposent sur des bases qui sont, à l'exception du Botswana, de l'île Maurice, qui sont déjà effectivement des pays émergents pour le cas de l'île Maurice, reposent pour l'essentiel sur une vision qui n'est pas cohérente. Je dis une vision qui n'est pas cohérente, pourquoi ? Deux choses. La question du capital humain. Il a été évoqué la question de l'éducation et de la santé. On ne peut pas comprendre que on agisse, on préfigure un développement, on préfigure une émergence sans pouvoir avoir des systèmes de santé fiables qui permettent précisément que les ressources humaines soient en mesure de garantir la productivité et la compétitivité de nos économies. Maintenant, pour revenir de manière stricte sur la question qui nous interpelle aujourd'hui, celle du président Buhari, le Nigeria, il y a quelques mois, venait, grâce au calcul de son PIB, incluant le cinéma notamment, d'accéder au rang de première économie africaine. C'est-à-dire que le Nigeria est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de création de richesses sur le continent. On voit très bien que ça peut être joli sur le tableau, mais c'est quelque chose d'absolument préoccupant. Pourquoi ? Parce que cet argent, il vient essentiellement des ressources pétrolières, donc à 90%, et moins, aujourd'hui il y a l'Hollywood qui vient s'ajouter et quelque peu les télécoms, et moins justement de la transformation de l'industrie, donc du secteur secondaire. Alors... Donc ça fait que les économies sont très très fragiles. Et on ne peut pas orienter les ressources qui devraient être orientées vers l'éducation et la santé. Alors, quand un président africain va à Londres, en Angleterre, pour soigner une otite ou un mal qui peut paraître banal, ça renvoie une image absolument désastreuse du continent. Ça veut dire que nous n'avons pas fait ce qu'il faut à la base pour que les premiers représentants de nos États, qui sont nos chefs d'État, puissent faire confiance au système de santé en restant chez nous, en Afrique, pour se soigner.
Alors, vous restez avec nous, Abdelaziz. On va prendre un auditeur dans le sud Kivu avec Mouloubi Chinois. Bonsoir.
Bonsoir, la voix de l'Amérique.
Alors, on vous écoute pour ce sujet d'antenne libre ce soir.
Merci beaucoup pour le sujet. Nous remercions très fort votre radio pour présenter le sujet pareil. Mais nous déplorons fortement à des présidents africains par rapport à leur gestion. Vous verrez, un président doit rester au pouvoir au-delà des années et des années. Mais lorsqu'il tombe malade, il doit préférer se faire soigner en Amérique, en Angleterre. Demande ce président, pourquoi tu ne veux pas te faire soigner dans votre pays? C'est par rapport à la gestion qu'ils sont en train de faire. Ils laissent le pays dans un mauvais état. Le pays n'a pas d'hôpitaux. Le pays n'a pas de routes. Vous vous retrouverez à tout ce qu'il est en train de faire. Ce n'est qu'à son intérêt. Raison par laquelle tous ces présidents africains que nous avons, ils tombent malades. Toute situation qui se présente à son égard, il doit recourir en Angleterre, il doit partir en Suisse, c'est parti par là, dans l'Occident. Pourquoi ? Parce que dans leur pays, ils ne gèrent pas, ils ne construisent pas, ils ne font rien. Ce n'est qu'à chercher à remplir dans son poche et la population est en train de souffrir.
Voilà.
Quand le président a les moyens de se faire soigner en Europe, nous, la population de la dernière classe, où est-ce qu'on ira ? C'est un problème qui complique. Par rapport à nos dirigeants africains que nous avons.
Alors, merci. Je vais revenir vers M. Djemal. On parlait tout à l'heure, je crois, Abdelaziz parlait d'un problème de confiance. Avant même d'arriver au problème de confiance et des soins, est-ce qu'il n'y a pas déjà un souci? Parce qu'on ne sait vraiment pas souvent de quoi souffrent les chefs d'État africains. Il me souvient, au Cameroun, un journaliste de renom avait été condamné parce qu'il avait osé évoquer la question même d'un malaise du chef de l'État camerounais. Pourquoi déjà les chefs d'État africains ne publient pas leur bulletin de santé et est-ce qu'ils n'ont pas, s'ils n'ont pas confiance aux infrastructures hospitalières, qu'est-ce qui peut justifier cela?
Alors, ceci est une constance qui n'est pas seulement africaine, elle est hélas universelle. Vous savez, tous les chefs d'État au monde gardent leur santé avec un secret extraordinaire. Vous savez, le secret médical est d'abord un secret très protégé. Deuxièmement, c'est que quand on est malade de façon générale, même un citoyen lambda, on n'a pas envie de parler de sa maladie. Vous imaginez bien que quand on est un chef d'État et sur lequel repose beaucoup de données politiques importantes ou même l'avenir d'un pays, vous comprenez bien qu'on n'a pas envie de révéler sa santé. François Mitterrand, le médecin de François Mitterrand, publié des bulletins de santé faux pendant tout le temps, alors que tout le monde sait qu'il était très malade. Enfin, tout le monde, personne ne savait, mais en tout cas, son entourage savait qu'il était malade. Donc, le secret médical des chefs d'État dans le monde est secret. Évidemment que dans nos États, ça l'est encore plus. Et donc, aucun d'entre eux n'a envie de donner une information fiable sur son état de santé. La tâche, j'ai envie de dire, est encore plus facile pour eux. Je vous donne un exemple. Regardez Abdelaziz Bouteflika. Mmh. Tout le monde sait les rapports conflictuels, difficiles entre l'Algérie et la France. Et c'est historique. Et pourtant, quand il va se soigner au Val-de-Grâce, qui est un hôpital militaire français. C'est-à-dire qu'on peut tout cacher à la France, mais pas la chose la plus importante, c'est-à-dire la santé de son chef d'État. Et donc, le secret militaire français perce l'un des secrets les plus importants en Algérie, la santé de son président. C'est-à-dire que le pouvoir algérien, les autorités algériennes, la nomenclature militaire algérienne est moins bien informée que celui auquel elle cache tout, dont elle se méfie, c'est l'état de santé de son président. Cela démontre quoi ? Qu'on n'est pas capable, encore une fois, bien entendu, d'être transparent sur pas grand-chose. Mais c'est la plus importante, c'est que même ce secret-là, qui est, Dieu sait, très important, nous échappe encore. L'indépendance, elle n'est pas bien dans tout. Et pourtant, Dieu sait que l'Algérie est un pays qui m'est cher personnellement, mais ce n'est pas le problème. Regardez l'hôpital Mustapha, l'un des bijoux de la technologie en son temps. Aujourd'hui, il ne fonctionne pratiquement pas. Ah. Quelle tristesse ! Mais ce cas-là est valable un peu partout. Et puis après, vous avez raison, John, c'est qu'un jour, on les voit en excellente santé, le lendemain, on nous dit qu'ils sont morts. Parce qu'il y a un secret évident. La transparence sur Doudou, les points de vue n'est pas encore de mise. C'est les questions de santé, elle l'est encore moins. Et l'un des gros problèmes que nous avons est encore une fois celui-là. Et souvenez-vous, la maladie, mais alors pendant très longtemps, dit président Houari Boumediene, il est parti se soigner en Chine, il est parti se soigner à Cuba. On n'en sait rien. Cela dit, encore une fois, évidemment que les chefs d'État africains, à l'instar de tous les autres chefs d'État, gardent un secret absolu.
De leur santé.
Mais enfin, à la limite, garder secret, c'est l'état de leur santé, n'est pas la chose qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus, c'est qu'eux aillent se soigner alors que les autres ne se soignent pas.
Voilà, on en parle tout à l'heure. Je vais prendre deux auditeurs. Je vais prendre Dieudonné Manirambona. Il est au Burundi. Dieudonné, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on vous écoute pour cette antenne libre. Votre réaction.
Oui.
On vous écoute pour votre réaction.
Ok. Nous, les Africains, nous avons un problème sérieux. On n'a pas confiance à notre continent. C'est toujours arrêt en Europe pour nous faire soigner. C'est très difficile. Nous payons cher, mais normalement, les Africains, nous devons construire notre hôpital spécialisé. Pour ne pas aller gaspiller car déjà en Europe. Ensuite, les Africains ont un problème. Se soigner ici en Afrique, c'est peut-être un problème. Parce que les Africains toujours cachent leur état de santé et tout les présidents. C'est ça.
Merci Dieudonné. Je vais prendre un autre auditeur, Mamadou Zigbari de Guinée. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Voilà.
Pour cette opportunité.
Voilà, allez-y.
Comme je l'ai signé sur la page Facebook de l'émission, les présidents des Africains, consciemment, le savent bien évidemment. Les structures sanitaires mises sur pied sont défaillantes et sont dans un état piteux. Les hôpitaux sous-équipés, les médecins non qualifiés et des médicaments venus de partout. Donc, le bas peuple est soumis à un danger permanent, un véritable risque de mort. Tandis que eux, sont eux les gouvernements. Dès qu'une maladie se présente, ils se valent d'urgence, soit au Maroc, aux États-Unis, en France. Cela prouve à suffisance le système sanitaire de l'Afrique est défaillant.
Alors, merci Mamadou.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Abdelaziz Moundé, Mamadou Zigbari parle de la défaillance du personnel soignant. Est-ce que vous partagez cette opinion?
Alors, il y a doublement dans ce cas spécifique des choses à relever. La première, c'est la question de la formation. Ensuite, la question éthique, pour le coup. Parce que souvent, quand on est très bien formé, dans les meilleures universités, dans les meilleurs centres de formation médicale dans le monde, que ce soit en Russie ou en Occident, Occident ou en Asie, au Japon par exemple, quand on en rentre en Afrique, ça peut poser aussi souvent des problèmes d'environnement, de corruptibilité ou d'incapacité effectivement à assumer les serments d'Hippocrate qui sont généralement prononcés quand on accède à la fonction médicale, à la profession médicale. Donc il y a doublement cela, la formation et la question éthique. Et on voit très bien que dans un certain nombre de cas, au Cameroun, en Afrique centrale et plus largement en Afrique subsaharienne, souvent le personnel soignant, infirmier ou le personnel médical fait face à cela ou est coupable d'un certain nombre d'actes répréhensibles du point de vue de la déontologie. Et aussi concernant le personnel soignant, le traitement. Vous savez qu'un médecin ne gagne pas beaucoup d'argent, grand-chose. Au Cameroun, par exemple, la moyenne, c'est 200 000 francs CFA à peu près, entre 200 et 300 000 francs CFA. Donc c'est pas beaucoup, c'est pas cher payé parce que 200 000 francs CFA, c'est à peu près 300 euros. Beaucoup de médecins préfèrent l'exode, travailler à l'extérieur, être migrant dans un certain nombre de pays européens, plutôt que d'être sur place à gagner, passez-moi l'expression, des clopinettes. Donc il faudrait travailler sur ces triples plans, la question de la formation sur place. Il y a un certain nombre de progrès et d'évolutions au Cameroun notamment et dans un certain nombre de pays où on forme déjà des médecins et du personnel soignant. Sur la question de l'éthique et de la déontologie, c'est fondamental parce que la corruption est une gangrène absolument foudroyante sur le continent africain de façon générale et en Afrique subsaharienne en particulier.
Alors,
et puis troisièmement, c'est la question de la rémunération du traitement de ce personnel soignant.
Alors, Monsieur Djemal, moi je voudrais évoquer avec vous le manque à gagner des pays africains lorsqu'un président va se faire soigner en Europe ou aux États-Unis. Combien ça coûte comme manque à gagner aux pays africains? Vous avez une idée?
Alors, ça coûte cher, forcément, mais voyez-vous, soigner un chef d'État, de toute façon, ça coûte cher. Et donc, bien entendu que ça coûte beaucoup d'argent. Je n'ai pas de chiffres en tête concernant la santé du chef d'État, mais ce qui coûte le plus cher, c'est de toute façon la santé en général. Quand vous savez que dans beaucoup de nos pays, les cliniques les mieux équipées sont généralement des cliniques européennes qui accueillent des citoyens des pays d'Afrique généralement fortunés et qui lâchent énormément d'argent. Tout le monde connaît quelques hôpitaux très célèbres à Paris, parfois privés, parfois dans les quartiers IP parisiens, qui accueillent une clientèle assez fortunée. On estime en moyenne que les pays d'Afrique, parmi les pays d'Afrique les plus pauvres, dont la sortie de devises dans le domaine de la santé tous les ans, est avoisinée à 30 millions de dollars. C'est-à-dire qu'un pays africain moyen, avec une richesse forcément moyenne, dépense environ, en termes de devises, 30 millions de dollars par an pour soigner ses populations à l'étranger, ceux-là qui les soignent. Alors, je vous mets de côté tous ceux qui ne sont pas touchés par les statistiques connues. Et donc, on estime en réalité que chacun des pays pauvres ou riches doit, à minima, dépenser entre 50 et 60 millions de dollars. Quand vous imaginez qu'un pays comme le Nigeria, ce chiffre doit être multiplié par 5 ou 6. Et donc, le manque à gagner est énorme. Et si on devait investir cet argent dans les infrastructures de santé, on serait heureux. Vous avez parlé tout à l'heure, John, de la défaillance du personnel de santé africain. Non, il n'y a pas de défaillance du personnel de santé. Les médecins sont admirablement bien formés. Quand vous les mettez à situation équivalente, généralement, ils sont les mêmes, sinon meilleurs. Et donc, et même meilleurs, parce qu'ils travaillent parfois dans des conditions difficiles, et donc ils s'adaptent aux situations les plus périlleuses. Quand vous les mettez dans une situation favorable, ils sont forcément meilleurs. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas compris, et c'est dès le départ, les priorités dans un pays. Vous savez, moi, j'ai une admiration sans limite pour Tijani Tiam, le patron du Crédit Suisse, qui est un ancien ministre ivoirien. Et il dit toujours une chose très jolie. Si vous voulez que le continent africain décolle, il y a trois postes sur lesquels il faut investir. L'éducation. Mais moi, j'ajouterais un quatrième, la santé. C'est que quand on n'aura pas réglé ces problèmes-là, qui sont de mon point de vue importants et primordiaux, on n'avancera pas. N'importe quel chef d'État africain qui est malade, même d'un petit rhume, il a besoin d'aller à l'hôpital américain à Neuilly. N'importe quel malade, il a besoin d'aller dans la clinique la plus huppée à Genève. Ça coûte une fortune colossale. Après, vous descendez dans le maillon de la chaîne et vous arrivez au plus bas. Eh bien, le plus bas, lui, il va mourir parce qu'il n'est pas capable de se soigner, parce qu'il n'est pas capable de payer, parce qu'il va dans une clinique où il n'y a pas d'antibiotiques. Quand il y a des antibiotiques, souvent, c'est de mauvais antibiotiques.
On va prendre deux autres auditeurs avant de revenir à vous pour le mot de la fin. Je vais aller à Ouagadougou, il me semble, prendre Adama Sawadogo. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, en quelques secondes, votre réaction sur ce sujet.
Oui, bon, au niveau des présidents qui vont à l'extérieur pour aller se soigner, moi je crois que puisqu'ils n'ont pas, ils n'ont rien investi ici, ils n'ont pas mis des hôpitaux, en tout cas des centres, en tout cas bien, pour pouvoir prendre en soin, prendre en charge ceux qui vont être malades. Maintenant, il se trouve qu'ils eux-mêmes, ils deviennent malades, puisqu'ils sont aussi des êtres humains. Donc ils savent ce qui est là. Donc ils sont obligés d'aller à l'extérieur pour soigner et puis revenir. Parce qu'ils savent que les autres qui sont ici là, ce sont des mourants. Par exemple, l'hôpital de Ouagadougou qu'on appelle Delgado Ouédraogo. Quand vous partez là-bas, c'est sûr que vous allez mourir. Donc c'est mieux d'aller dans un comme ça. À l'extérieur, si tu as les moyens, si tu n'as pas les moyens, en tout cas, il faut prier Dieu pour que les ancêtres, en tout cas, essayent de faire quelque chose pour vous.
Alors merci Adama. Je vais prendre Faustin à Bujumbura. Faustin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors votre réaction en quelques secondes.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que parmi les présidents africains, il y a ceux qui veulent aller se faire soigner à l'étranger, de peur d'être dévalorisés par le public, c'est-à-dire des habitants du pays. Et dans ce cas où on trouve des présidents, beaucoup de présidents, veulent fréquenter surtout l'Europe en se faisant soigner. Et je peux donner un exemple d'ici dans notre pays où c'était dans les années passées. Un maire de la ville a pu dire les médias qu'il ne peut pas se faire soigner dans l'un des hôpitaux de la capitale. C'est-à-dire que même les chefs locaux ne veulent pas se faire soigner dans les hôpitaux locaux. C'est ce que je peux dire, c'est ça.
Voilà, merci beaucoup Faustin. Je vais revenir à nos deux invités principaux. Alors, Abdelaziz Moundé, est-ce qu'il viendra un moment où les chefs d'État africains se soigneront finalement en Afrique? Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire de manière générale pour améliorer les conditions de vie hein, ou des infrastructures dans nos hôpitaux en Afrique?
Alors, on parle désormais justement de l'Afrique Eldorado, qui est la nouvelle frontière de la croissance. Il faudrait simplement qu'on ne parle plus uniquement de la croissance en termes de mobilisation des richesses ou de transformation des matières premières, qu'on parle désormais de croissance et développement humain. Parce que si la question de la santé et de l'éducation ne sont pas au centre des priorités, c'est-à-dire de faire de l'homme le centre et la mesure de toute chose, eh bien, on courra dans 20 ans le risque d'avoir la même émission sur la voie d'Amérique avec un futur président du Nigeria, du Cameroun, du Burundi ou du Botswana qui se soignera à l'extérieur. Donc je pense que sur la triple question des infrastructures, dont des moyens colossaux à investir, nous les avons en Afrique, des moyens colossaux à investir sur les infrastructures, sur la qualité du personnel, la formation du personnel, et puis bon, maintenant aussi sur le traitement du personnel. Je pense que largement au niveau de l'Union africaine, il faut une matrice des politiques stratégiques dans le domaine, et puis au niveau des pays, que les politiques publiques en matière de santé soit prioritaire, non plus simplement sur le papier comme ça se voit, non plus simplement lors des sessions budgétaires à l'Assemblée nationale, mais de manière effective pour qu'à la fin de l'année on puisse évaluer le nombre de lits, le nombre d'hôpitaux qui ont été construits, le nombre d'infrastructures de points technologiques qui ont été dont les hôpitaux ont été dotés,
voilà.
Et puis également le fait que les chefs d'État, on l'a évoqué tout à l'heure, la question de la transparence.
Merci à Abdelaziz Delejeune. Je vais prendre rapidement un auditeur au Cameroun. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, en quelques secondes, votre réaction. Mamadou Mouta.
Oui, les présidents africains se soignent en Europe, dans d'autres pays occidentaux, pour deux raisons. Parce que, un, ils ont refusé de construire des hôpitaux parce que ça faisait partie de leur objet de propagande électorale. Chaque année, il faudra proposer aux populations des hôpitaux qui ne sont jamais réalisés. Et deux, lorsqu'ils sont équipés, ces hôpitaux se trouvent à un coût prohibitif, mais eux, ils ont tout à leur disposition pour se soigner sur le contribuable à
l'étranger. Voilà, merci Mamadou. Je vais venir à Monsieur Djemal pour votre mot de la fin.
Tout a été dit, c'est-à-dire que si nous ne comprenons pas définitivement que c'est une question de santé primaire et que si nous voulons avoir une population dynamique, nous devons avoir une population en bonne santé. Si nous devons préparer l'avenir de nos populations, nous devons préparer l'avenir de sa santé. Mais l'avenir, évidemment, est un ensemble, mais dans cet ensemble-là, il y a la santé. La santé est un facteur économique important, c'est un facteur de croissance important, c'est un facteur de non-dépense important.
Voilà.
Et puis, pardon, si l'économie de la santé est capable de générer à elle-même une richesse
richesse et une valeur intérieure importante.
Merci.
Mais au-delà de tout cela, on ne peut pas laisser des populations mourir, s'occuper simplement d'une petite poignée.
Merci Jamal. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. C'est la fin de cette émission présentée par John Lyndon. Georges Léonard Sagnot assurait la production. Wagner Roberts était à la mise en onde. Merci, bonsoir.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.